Cube.radio.
Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
C'est l'ami Vincent Desureaux et là, t'as une nouvelle, ça me fait peur. Est-ce que l'humain est en voie d'extinction? C'est quoi ça?
Ouais, ben plusieurs, Manon Massé va te dire que c'est déjà fait avec les changements climatiques, là. Mais il y a une nouvelle façon d'avoir peur de que l'humain disparaisse. Et ça vient de Shana Swan, qui est une épidémiologiste de New York, qui publie un nouveau livre. Elle avait fait une étude en 2017 qui avait fait grand bruit parce qu'elle comptait le nombre de spermatozoïdes chez l'homme, ok? Tu t'en souviens peut-être?
Oui.
Et que c'était en forte baisse, en fait, entre 1964, si je me trompe pas, et 1973 et 2011, une chute là, de 59%.
On n'a jamais su pourquoi, non?
Non, on parle de facteurs environnementaux, les produits chimiques, mais on sait pas trop pourquoi. Baisse de testostérone, mais qu'on n'associe pas non plus à une raison claire. Et elle explique donc dans un nouveau livre que si le déclin se poursuit, elle dit à ce rythme-là, puis c'est un peu pessimiste, là, mais on tomberait à zéro, là, infertile, en 2045.
Comme le film Children of Men.
Ben, exactement, où on devient soudainement infertile. Et 2045, c'est bientôt, là. C'est pour ça que moi, je trouve ça un peu... Je veux dire, c'est apocalyptique, là, 2045. On parlerait des jeunes qui naissent aujourd'hui, là, qui seraient la fin, la dernière génération de l'humanité. Et, mais ce qu'elle, elle sonne en gros l'alarme à dire, ce déclin-là, là, il faut vraiment s'en inquiéter. Parce qu'elle dit, si on établit une espèce en voie d'extinction, là, il y a 5 critères. Elle dit, l'humain, présentement, en coche 3. Il faut en cocher juste une pour être en voie d'extinction. Entre autres, la perte d'habitat, on a les maladies, la pollution. Alors, il y a plein de raisons. Et elle demande à ce qu'on se penche sur le problème. Parce qu'on dit, là, il y a de plus en plus de garçons qui naissent avec des problèmes ou des anomalies au niveau des organes génitaux. On a de plus en plus de raisons biologiques de ne pas avoir d'enfants. Il y a des taux... la puberté également qui est de plus en plus plus tôt pour les filles. Alors, plein de changements dans le corps, on ne sait pas trop pourquoi. Quoi? Et là, on associe, est-ce que c'est les cosmétiques? Est-ce que c'est les pesticides? Est-ce que c'est les plastiques? Est-ce que c'est les phtalates, le bisphénol A? On ne sait pas. Alors, il faudrait s'y pencher, selon elle.
Il y a moins de films de Steven Seagal.
Ça mettait... Le testostérone. Et un problème érectile aussi qui aide pas à faire des enfants. Et on dit que là, la moitié des pays sont à moins d'un taux de natalité de moins de 2,1, ce qui est le taux pour renouveler la population, là. Donc, c'est que les femmes, faut en faire deux, puis un petit peu plus, parce qu'il y en a qui meurent très jeunes. Donc, 2,1, là, c'est le taux de renouvellement. Et on est en bas de ça. Faut dire qu'en 1964, on était à plus que 5 dans le monde, mais là, c'était la croissance.
Et là, on est en train de se rendre compte qu'on a besoin des hommes. On est nécessaire.
C'est sûr que
on sent pas rien qu'à sortir les
ça irait mal. Mais en même temps, je pense pas qu'on manque d'humains en ce moment dans le monde. Alors c'est pas un problème là urgent, mais il faut y voir selon cette chercheur.
Ben 2045, c'est demain.
Oui, tout à fait. Ça c'est vrai.
C'est vraiment demain. Alors une autre bonne nouvelle pour le vaccin Pfizer.
Oui, parce que là on va parler d'AstraZeneca beaucoup aujourd'hui parce que s'il vient d'être approuvé au Canada, c'est une bonne nouvelle. Mais une autre bonne nouvelle sur Pfizer, ça tombe bien, c'est lui qu'on a le plus le Pfizer BioNTech parce que la grande question, puis j'en voyais plusieurs là, qui se demandaient pourquoi moi je serais vacciné, Richard, si je vais pas tomber malade, je suis jeune et que ça me donne rien, là, ça me permet pas d'accéder à plus de liberté, ça me permet pas de voyager. Ben, en fait, il y a deux choses. C'est qu'on est juste pas rendu là encore parce que d'un, on n'est pas vacciné. Là. Au Canada, c'est juste les personnes en CHSLD, donc c'est pas une question qui est urgente à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le vaccin. Et l'autre, c'est qu'on savait pas exactement est-ce que ça empêche la transmission. T'as vu en Israël, il y a quelques jours, les premiers chiffres étaient très bons, à savoir ça semble aussi bloquer la transmission. Mais une nouvelle étude publiée ce matin de l'Université de Cambridge, dans leur hôpital universitaire, des tests depuis eux vaccinent là, les employés de santé depuis décembre, là, depuis le début décembre, de sorte qu'ils commencent à avoir beaucoup de chiffres sur la transmission, les cas, et eux arrivent à la conclusion que avec des chiffres quand même, bon, c'est que le début là, mais ça coupe la transmission par 4 dès la première dose.
Oh,
Pfizer,
oui.
BioNTech, ce qui serait une très bonne nouvelle parce que c'est beau de pas être malade avec le vaccin, mais pour les plus jeunes,
ben
là,
oui.
Nous sachant, tu sais, on est moins inquiet d'être très malade. Ce qu'on veut, c'est de plus être un danger pour personne, puis de pouvoir vivre notre vie. Ben, semble que ça se dirige vers ça. Après une seule dose, on coupe par quatre la transmission selon les premiers chiffres au Royaume-Uni.
Ben, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce qu'on disait, le vaccin, ça fait que, bon, tu développeras pas, tu seras pas malade, mais sauf que tu vas pouvoir le transmettre.
Ah oui.
Mais là, non.
Ben, parce que si tu peux le transmettre, on s'entend, là, oui. Notre liberté, il va falloir la retarder beaucoup. Si ça coupe la transmission, ça coupe les jambes de la transmission au moins par quatre, c'est une vraiment bonne nouvelle parce que là, on peut s'imaginer lorsqu'un peu tout le monde est vacciné cet été que là, écoute, toi, si tu peux pas être un vecteur, tu peux pas être malade, les autres aussi.
Excellent.
Ben là, on pourra commencer à vivre à peu près normalement, finalement.
Je vais dire mon scoop en début d'émission. Tu n'as peut-être pas écouté, mais j'avais un scoop pour les auditeurs puis je vais te le dire à toi.
C'est quoi?
C'est qu'on dit qu'il va y avoir des festivals cet été.
Oui.
Alors, j'ai justement le nom des artistes pour Oceaga.
Oui.
Oceaga, ça va être Michel Louvain, André Lejeune et
Deux frères.
Parce qu'il n'y a rien que les vieux qui vont être vaccinés cet été. Les jeunes ne pourront pas aller dans un festival. Fait que c'est rien que les vieux. Donc, Oceaga, ça va être André Lejeune.
Oui, il y a aussi. Ah, OK, je comprends, là. Parce que, mais il y a la frontière, là. Tu sais qu'on n'aura pas d'invités internationaux cet été aussi.
Non, mais
ça peut être
surtout,
compliqué,
ça va être
mais je comprends,
vieux.
Les vieux.
Ça va être des vieux qui vont être vaccinés. Les jeunes vont être vaccinés en septembre. Fait que les vieux, s'il y a des festivals, c'est rien que les vieux qui vont
être vaccinés. Mais c'est une grande scène, puis tu mets ta vedette jeune au centre.
Pas sûr, moi.
Ouais. Mais toi, les festivals cet été, est-ce que tu y crois?
Non.
Chacun ou à la limite dans son petit enclos?
Non. Je trouve qu'il y a bien des gens qui vont être déçus. Là. Je parlais à un organisateur de festival et tout ça. Là. Lui, il croit encore, mais je crois pas.
Mais j'ai de la misère. Ça doit tellement être dur d'être organisateur de festival. Tu dis, je me lance-tu, moi, à travailler en fou pour sans trop savoir? Mais en même temps, ça se peut qu'au mois de juillet, Richard, on se retrouve à dire, écoute, on est à 10 cas par jour. Presque tout le monde est vacciné. Puis là, pourquoi on s'empêcherait de faire un festival?
Festival du cochon de Sainte-Perpétue?
Ben, moi, c'est sûr que je pense au Festival d'été de Québec. À
Festival du cochon graisseux.
Qui nous manque. Et les Jeux olympiques. Et les Jeux olympiques, il semble que ça se dirige, ça s'enligne pas mal pour avoir lieu. On parle du voyage de la flamme olympique. Je commence à y croire que ça peut repartir.
Ça va être beau. Écoute, tu veux parler d'un diplomate russe.
Oui, diplomate russe. C'est peut-être une vidéo que vous allez voir sur les réseaux sociaux beaucoup, Richard. Les diplomates, là, quand ça se promène généralement d'un pays à l'autre, t'imagines que quand ils quittent le pays, c'est en première classe ou dans une limousine ou tu sais, généralement ils sont bien traités. Sauf présentement quand tu es un diplomate en Corée du Nord. Évidemment, ça reste la Corée du Nord, là, mais en général, pour les diplomates, pour les quelques journalistes qui peuvent y accéder, ils sortent la grosse affaire là, et tu es généralement bien traité. Le problème avec un diplomate russe qui s'appelle Vladislav Sorokin, dans les derniers jours, c'est que lui devait revenir en Russie avec sa famille. Donc, il partait tout simplement de Pyongyang pour s'en retourner chez lui en Russie. Le problème, c'est que, d'un, il n'y a plus de vol. Il n'y a aucun vol qui entre et sort de Corée du Nord. Eux, ils ont une des politiques les plus strictes. Là. La frontière s'est fermée, ils te fusillent là, si tu passes à travers la frontière. Et d'ailleurs, c'est pas des farces, là. Ils te fusillent pour vrai. Donc, c'est extrêmement sévère et il n'y a pas d'avion. Alors, tu sais, ici, on a quand même quelques avions qui circulent pour quelqu'un qui veut entrer et sortir. C'est pas le cas en Corée du Nord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Sorokin, pour pouvoir sortir du pays hier? Il a fait donc d'un 32 heures de train, donc ça, 30 pour s'amener là à la frontière, un petit bout de frontière avec la Russie là à l'est près de Vladivostok. Ensuite, plusieurs heures d'autobus avec sa famille, dont un petit garçon de 3 ans. Mais c'est le dernier bout qui est assez incroyable. Tu sais, dans les Lucky Luke, là, les Dalton, où ils utilisent un petit une plateforme à manuel de train. Une plateforme ferroviaire où tu montes, descends. Mais il a quitté Richard à bord avec sa famille et tout un tas de valises sur une plateforme ferroviaire à propulsion manuelle.
Tu me niaises.
Je te jure, j'ai vu les images. Ils traversent entre autres le pont là, de la rivière Tumen entre la Corée du Nord et la Russie. Donc, on veut pas traverser. Alors, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de train. Alors, on l'a mis sur ce qu'on appelle donc un trolley, là, sur un petit trolley manuel. Et il a pompé des bras.
Combien de temps?
Ben, c'est pas très long, là, à peu près 1 kilomètre. Mais à bras, avec toute ta famille, puis quand t'es un diplomate qui est probablement pas un athlète olympique, là, ça a l'air ridicule. On transportait toute sa famille. Il a été reçu par un responsable de l'ambassade qui s'assurait que c'était la bonne personne qui arrivait. Là, tu le vois, il pompe. Alors, c'est peut-être une des sorties les plus ridicules là, d'un pays que j'ai vu, moi, par un diplomate. Donc, c'est la seule façon, en ce moment, d'entrer et de sortir. C'est comme les Dalton qui essaient de se sauver de Lucky Luke.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est ridicule.
Y avait-tu un pyjama rayé ou quoi?
Non. Des grandes valises emballées, sa famille avec lui, puis on quitte. Alors, je sais pas s'il voudra peut-être aller en France après.
Oh Brother, tu sais le film des Frank Cohen, Oh Brother, Where Art Thou, avec George Clooney. Je pense qu'il y avait ça, à un moment donné. Là.
Un petit trollé.
Main,
ben, tu peux faire au Québec, il y a un endroit où tu peux faire ça de façon touristique avec ta famille, ça a l'air super le fun. Mais pour quitter un pays, une dictature, moi en tout cas, je pomperais vite là, pas me faire tirer dans le dos.
Bon week-end. Merci, on sait Richard. Que toi, c'est les grosses journées le vendredi.
Ben, mais j'adore
ça. Tu fais
l'émission
avec Mario, puis après ça, tu pars.
Oui, je pars tantôt pour Québec, faire salut bonjour. Samedi, dimanche, mais c'est un plaisir, là.
Puis t'as un tournage demain, puis tu travailles.
Oui, je t'ai intéressé aux fabricants, parce qu'il y a beaucoup de fabricants québécois de jeux de société. D'ailleurs, notre collègue Jean-François Barry est un créateur de jeux de société.
Oui.
Et on va aller...
Alex Perron aussi.
Oui, je pense que oui, effectivement. Donc, je vais aller visiter ça demain et faire un reportage.
Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que Antoine Robitaille est là?
Ben oui, je suis là.
Hey, encore dans le rôle de Benoît Trisac. Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes dans ta cuisine?
On va parler à 11h à Éric Bédard fait qu'on plusieurs personnes voudraient rebaptiser l'aéroport Trudeau.
Mais oui, mais ça, c'est fédéral.
Moi, j'ai reçu à la suite de ma chronique parce que je suis d'accord. En tout cas, je suis ouvert à l'idée. Puis, à la suite de ma chronique, j'ai eu beaucoup de courriels. Alors, on va faire comme un palmarès d'abord avec Alexandre Moranville. Puis ensuite, on va parler à Éric Bédard. Parce qu'il y a des questions, comment dire, de mémoire, Richard. Il y a bien des gens aujourd'hui qui voudraient rebaptiser, déboulonner des statues.
Ben oui.
C'est la même question qui se pose. Puis Éric Bédard, lui, il avait dit, attention, McDonald's, par exemple, dans le cas de la statue de McDonald's, est-ce qu'il faut absolument la déboulonner, la remettre là? En tout cas, la question se pose.
Non, mais d'ailleurs, on demande aux gens de nous écrire à Cube Radio si on donne un nouveau nom à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, ça serait quel nom? Mais cela dit, c'est le fédéral qui prendrait cette décision-là.
Absolument, mais on peut faire pression sur le fédéral. On est encore dans ce pays-là. On est.
Et c'est quoi le nom? Maurice Richard doit surtout venir souvent.
Oh, c'est René Lévesque, je veux dire.
C'est
le choc René Lévesque-Trudeau qui revient beaucoup. Mais il y a des Oscar Peterson puis des Céline Dion aussi.
Mais tu sais, René Lévesque, ça tombe sous le sens parce qu'on sait qu'il a été correspondant à l'étranger. D'ailleurs, lui, il était parmi les journalistes qui entraient dans les camps de concentration à la Libération. Là.
Ben oui.
Donc, ça aurait du sens.
Absolument.
Tout à fait.
Absolument.
Bon.
Donc, ça va être intéressant. Puis, à midi, on va parler de chasse. Chasse sur l'île de Montréal avec Louis-Gilles Franqueur, qui est un ancien journaliste, ancien vice-président du BAP et chasseur. Moi, je l'appelle l'écologiste paradoxal parce qu'il prône la chasse.
Ben oui.
Louis-Gilles, puis il connaît ça. L'histoire de la chasse
à Montréal.
Il connaît ça en maudit. Donc, ça va être intéressant.
Chasser les chevreuils?
Oui, notamment.
À Longueuil.
Puis l'idée de bannir aussi la chasse dans l'île de Montréal.
Ben super, on t'écoute. Écoute, et bon week-end après ça, toi, Antoine. Merci beaucoup. Je vais remercier mon équipe à la recherche, Carl Marchand. Merci beaucoup. À la console réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Vincent, bon week-end. Bon week-end tout le monde. On se reparle lundi 8h. Idlou, idlou, idlou. Et on écoute Antoine.